Chapitre 7e. Tandis que ces événements se passaient à Paris, le brave Germain mourait. « Je m'en vais content, monsieur le curé, » avait-il dit à sa dernière heure. « Voilà mon Antoine, fils unique de veuve. Il ne sera pas soldat. Sa pauvre mère en avait si grand peur. » En récompense des services de son père, Antoine obtint la survivance de sa place dans l'administration des forêts. Rien ne fut donc changé à la tour. Seulement il y avait une place vide à la table, une place vide au foyer. Mais quoi de plus triste au monde que ce vide que l'on sait éternel? La maladie du garde avait été longue, et on eût dit qu'elle était encore venue resserrer les liens étroits qui unissaient les enfants de la tour. Rien ne rapproche les âmes comme un sentiment commun d'inquiétude ou de chagrin. Les yeux qui se cherchent pour s'interroger, les mains qui se serrent pour s'encourager, les cœurs qui battent à l'unisson dans les moments d'angoisse ou d'espoir, toutes ces phases plus ou moins douloureuses doublent la tendresse, augmentent la confiance chez les êtres animés des mêmes sympathies. Combien de fois, pendant les pénibles nuits passées au chevet du malade, ne vit-on pas la tête de Marie, appesantie par la fatigue, se reposer sur l'épaule de son frère? Combien de fois aussi, pendant le sommeil de sa compagne, aurait-on pu voir Antoine recueillir sur ses lèvres les larmes arrêtées au bord des lancils de la naïve enfant? Mais si ses soins, tendant au même but, si ces mêmes peines, ces douces familiarités donnaient un élan plus vif à la tendresse de la jeune fille, ils apprenaient à Antoine qu'il n'aimait plus Marie comme une sœur et que désormais tout bonheur était impossible pour lui. Après la mort de son père, le chagrin d'Antoine prit donc une teinte farouche qui repoussait toutes les consolations. Au lieu de rechercher la société de sa mère et de Marie, il semblait les fuir avec intention. Partant de grand matin, rentrant fort tard, on ne le voyait presque jamais au logis. Le soir, lorsque le temps était beau, il montait sur les ruines. Là, assis comme au jour de son enfance, mais à cette heure, triste et rêveur, on l'entendait prononcer des paroles entrecoupées et sans suite. Simone se désolait et disait que son fils devenait fou. Marie pleurait en répétant qu'Antoine ne l'aimait plus. Enfin, lassé de ses rigueurs, qui lui rendaient la vie si malheureuse et craignant d'avoir peut-être mécontenté son frère, Marie chercha une occasion favorable de s'expliquer avec lui. C'était un soir du mois de juin, après le souper de famille, devenu si triste depuis la mort de Germain. Antoine, encore plus soucieux que de coutume, avait quitté la salle commune pour les solitudes du haut de la tour. Le ciel était pur, les étoiles brillaient dans leur muette splendeur. Des flots de feuillage, murmurant sous la laine de la brise, reflétaient les rayons de la lune qui, montant derrière la forêt, laissaient dans l'ombre le vieil édifice dont la masse sombre et silencieuse semblait un géant endormi. Sur son sommet, Antoine, la figure pâle, le regard tantôt animé, tantôt abattu, se tenait immobile comme le génie de ces lieux mystérieux. Pendant cette étrange rêverie, un pas léger fit tressaillir Antoine, et bientôt une forme blanche, se dessinant dans les décombres, révéla au cœur ému du jeune homme la présence de Marie. Pris à l'improviste, le premier mouvement d'Antoine fut de se précipiter vers la charmante apparition, mais son énergie naturelle reprenant aussitôt le dessus, il se rejeta en arrière et frappant du pied sur la terre. « Qu'êtes-vous venu faire ici, Marie ? » dit-il avec colère. À cette rude interpellation, la jeune fille perdit toute son assurance. Glacée de crainte, elle resta muette. De larmes coulèrent sur ses joues pâlies. Dans ce moment, la lune, dépassant le couronnement touffu des vieux chênes, inonda cette scène nocturne d'une soudaine clarté. C'est alors qu'avec sa longue robe blanche, ses cheveux épars, ses yeux suppliants levés vers le visage assombri d'Antoine, Marie, aux yeux du passant, aurait pu réaliser la fantastique légende de la tour Rebelle. En voyant les larmes de sa compagne, en voyant l'effroi se peindre sur ses traits adorés, Antoine sentit son cœur défaillir, et toutes ses résolutions s'évanouirent. La tête perdue, il l'enlève dans ses bras, la pose près de lui sur les pierres mousseuses, la presse sur son cœur, sans force pour lui parler. Puis, se relevant tout à coup, il s'agenouille devant elle, la contemplant comme si pour la première fois sa ravissante beauté se révélait à lui. « Marie, Marie, » reprit-il enfin, mais cette fois avec douceur, « dites, qu'êtes-vous venu faire ici ?» Heureuse de retrouver la tendresse de son frère, Marie sentait renaître sa confiance. Cependant, elle tremblait encore. Antoine se rapprocha de la craintive enfant et prenant ses mains dans les siennes. « Est-ce ma mère qui vous envoie ? » demanda-t-il. « Notre mère dort depuis longtemps, » répondit Marie. « Je suis venue ici pour connaître, pour vous demander... » Elle s'arrêta, en jetant sur Antoine un regard scrutateur. « Peut-être voulez-vous connaître, » dit Antoine en souriant, « la raison qui me fait négliger notre jardin. Mais vous savez que j'ai maintenant des occupations qui m'ôtent tout loisir. » Marie ne répondait pas. « Vous voulez peut-être savoir pourquoi je vous laisse aller seul chez notre bon curé ? Mais Marie, j'ai assez et plus de sens qu'il n'en faut, un pauvre garde-chasse, » ajouta le jeune homme avec amertume. « Non, non, ce n'est pas cela qui me tourmente, » dit Marie en appelant à elle son courage. « Ce que je veux savoir, c'est pourquoi vous ne m'aimez plus ?» Tout le sang d'Antoine reflua vers son cœur. « Mon Dieu, soutenez-moi, » murmura-t-il. « Vous ne me répondez pas, » reprit Marie avec angoisse. « Vous n'osez point me dire la vérité. »« La vérité que je vous aime toujours, » dit enfin Antoine d'une voix que l'émotion rendait presque inintelligible. « Bien moins que du temps où notre père Germain vivait encore, » reprit la jeune fille. « Plus, » dit Antoine en maîtrisant les mouvements de son cœur, « mais d'une autre manière. » Marie le regarda avec étonnement. « D'une autre manière, » répéta-t-elle. « Oui, je vous aime comme un homme de ma classe doit aimer une demoiselle de grande famille, riche et faite pour le monde, et laquelle il ne doit parler qu'avec respect. « Moi ? Moi, une demoiselle de grande famille, avec de la fortune ? » s'écria Marie. « Mais où sont donc mes parents, si ce ne sont les vôtres ? Ai-je une autre maison que notre pauvre tour et d'autres fortunes que celles que nous gagnons en filant du lin, ma mère Simone et moi ? Ah, Antoine ! » ajouta la jeune fille avec un douloureux accent. « Je n'ai jamais pensé à cela. »« J'y ai pensé, moi, » répondit sourdement Antoine. « Parce que vous avez de l'orgueil, vous, » reprit Marie d'un ton de reproche. « Monsieur le curé vous l'a toujours dit. Vous ne pouvez oublier toutes les grandes choses que vous avez vues dans votre enfance, et vous regrettez de n'être que le filleul d'une pauvre reine morte. »« Oh, ma chère marraine, » s'écria Antoine, en couvrant sa figure de ses deux mains, « si j'avais pu mourir avec vous. » « Voilà bien la meilleure preuve que vous ne m'aimez plus, » dit Marie. « Peut-on quitter pour jamais ceux qu'on aime ? Mon Dieu, que vous ai-je fait, Antoine, pour mériter un si grand malheur ?» La pauvre enfant éclata en sanglots. Antoine sentit qu'il devenait fou. Sa tête brûlait, son cœur battait à briser sa poitrine, ses yeux lançaient des éclairs. « Écoutez, Marie, » dit-il avec un accent terrible, et en serrant convulsivement les bras de la jeune fille. « Écoutez. Si vous pleurez encore, si vous me forcez à parler, quand vous saurez le mortel secret qui pèse sur mon cœur et que je n'aurai plus rien à vous apprendre, alors je me précipiterai du haut de cette tour, car je n'aurai plus qu'à mourir. » Éperdue à ces paroles, Marie s'arracha à l'étreinte passionnée d'Antoine et se jetant à ses pieds. « Oh, ne blasphémez pas, mon frère » s'écria-t-elle. « Dieu aura pitié de nous. » Dans ce moment, et comme si la Providence eût voulu mettre un frein au dangereux élan de ces âmes aimantes, un bruit se fit entendre dans la direction de la forêt. Les deux jeunes gens tressaillirent, frappés d'une même pensée d'effroi. 11 heures sonnèrent à une horloge lointaine. « Qui peut venir si tard à la tour ?» dit Antoine. « Je tremble, » murmura Marie. « On dirait le trot d'un cheval, » reprit Antoine. Au même instant, un cavalier se montrait sous la lisière du bois. « C'est le curé !» s'écria Antoine. « Un malheur nous menace, » dit Marie. Ces mots pénétrèrent dans le cœur d'Antoine comme un fer aigu. Ce malheur, il le devinait. « Le ciel est juste, » pensa-t-il. « Descendons, » dit Marie. Et sans se parler davantage, les pauvres enfants se prirent par la main pour aller au-devant de leur vieux maître. À leur pâleur, à leur maintien abattu, à leur pas chancelant, on aurait pu les prendre pour deux condamnés marchant au supplice. En entendant les voix qui se répondaient, les portes qui s'ouvraient, Simone s'est élevée à la hâte. Une visite à la tour, à pareille heure, n'était pas chose usitée. La venue du curé devait donc annoncer un événement extraordinaire, et en juger par l'expression de tristesse répandue sur la figure du bon prêtre, cet événement devait justifier les plus sombres pressentiments. Quand tous furent réunis dans la salle, il y eut un moment de silence plein d'anxiété et d'effroi. La famille n'osant interroger le prêtre, lui n'osant parler le premier. Enfin, Simone, comprenant sans doute que ses enfants mouraient sous le poids de cette cruelle attente, rassembla son courage. « Eh bien, monsieur le curé, le bon Dieu veut donc encore nous éprouver. Il nous envoie un nouveau malheur, n'est-ce pas ?»« D'autres l'appelleraient un bonheur, mère Simone, » répondit lentement le vieillard, et ce disant, il présenta une lettre à mademoiselle de Martigné. « C'est de votre père, mon enfant. »«
Mon père ?»
s'écria Marie avec stupeur.
« Mon père ?»«
Lisez ce qu'il m'écrit, » reprit le curé.
« Et ma mère ?»
demanda la jeune fille, dont les mains tremblaient si fort qu'elle ne pouvait ouvrir la lettre.
« Depuis bien des années, Dieu a disposé d'elle, » répondit le prêtre.
« Oh, je le savais bien, moi, qu'elle devait être morte, » dit Simone. « Les mères n'oublient pas si longtemps leurs enfants. » Le curé jeta sur la veuve de Germain un regard sévère. Mademoiselle de Martigny avait achevé sa lecture. Sur son visage pâle se peignait une résignation désespérée, une sueur glacée couvrait son front.
« Ma fille, que répondrai-je à l'envoyé de votre père ?»
demanda le curé. Marie tourna ses yeux désolés et remplis de larmes vers la place qu'occupait Antoine. Le jeune homme avait fui.
« Demain, au point du jour, je serai prête à partir, » dit-elle, puis se jetant dans les bras de Simone éplorée. « Vous lui direz qu'il le fallait, ma mère, » murmura-t-elle plus bas.
Trois jours se passèrent sans qu'Antoine reparût à la tour.